pour ou contre. Tous les jours, 11h midi sur leur FM.
Salut Gaëtan.
Bonjour Jérôme.
Les sujets qui font débat et l'actualité de ces dernières heures, le chaos de la jungle de Calais au cœur de la rencontre Hollande-Cameron.
Le Conseil de l'Europe s'inquiète de la banalisation du racisme et pointe la peur des étrangers en France.
D'après l'INSEE, le taux de chômage baisse un peu en France.
Et un dernier sondage, Hollande et Valls poursuivent leur chute.
Et cette question du jour, pensez-vous que les Français aient peur de l'étranger? Vous pouvez venir, on va remettre les mots dans l'ordre, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, la page Facebook officielle leur FM et puis également sur le standard 03 82 21 04 04. Il était avec nous hier soir sur la scène privée Leur FM. Vous allez pouvoir revivre ça dimanche soir à partir de 21h. Voici Ritza avec Pardon sur Leur FM.
Pour ou contre ? Tous les jours, 11h midi sur Leur FM.
Jeudi 3 mars, il est 11h04. Notre invité dans ce pot contre, Françoise Grelet, conseillère régionale à Cal. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là avec nous pour les 60 prochaines minutes. Nous allons revenir sur les sujets qui font l'actualité de ces dernières heures et le chaos de la jungle de Calais au cœur de la rencontre Hollande-Cameron.
L'évacuation de la jungle de Calais se poursuit alors que François Hollande et David Cameron se rencontreront ce jeudi à Amiens pour le 34e sommet franco-britannique. Et geste fort, hier, 8 Iraniens se sont cousus la bouche avec des aiguilles et du fil pour protester contre le démantèlement du bidonville.
Qu'est-ce qu'il va falloir s'attendre à cette rencontre Hollande-Cameron?
Écoutez, je viens de voir que notre ministre Macron,
oui.
de son côté, fait pression sur les Anglais en leur disant que si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, la France ne retiendra plus les migrants à Calais. Ce qui est une façon indirecte de faire encore plus peur sur aux Anglais pour qu'ils se sentent obligés et tenus dans leur intérêt de rester dans cette Union européenne dont ils ne veulent plus, alors que on peut voir que cette situation, c'est un échec total pour les Calaisiens d'abord. Moi, je pense d'abord aux gens qui vivent et qui survivent et qui subissent cette situation, qui ont leur vie complètement ravagée. On a vu parfois des témoignages, rarement, de personnes qui vivent à côté de ce camp, auxquelles je pense en premier, ce qui ne veut pas dire qu'on est évidemment insensible au sort de ces personnes qui cherchent à rejoindre l'Angleterre. Mais le problème, il est d'abord chez nous, en France, pour les gens qui sont confrontés à cette situation.
Alors, ce démantèlement est en cours, on va redispatcher dans l'ensemble du territoire les migrants qui sont présents sur Calais. C'est vrai que finalement on pensait que ce camp allait être correctement encadré et on s'est rendu compte qu'on était dans une situation qui était horrible pour eux, même déjà pour les migrants qui étaient sur place. Des conditions de vie qui sont atroces là-bas, dans ce camp.
Il y en a qui sont revenus à grands coups, puisque c'était dans un jet, revenu dans différents points de France, qui ont été délocalisés, on peut dire.
Oui, c'est ça.
Ce qu'ils disent. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est aller en Angleterre, où ils trouveront, soit ils rejoindront leur famille, ou trouveront du travail ou des activités. Ils ne veulent pas rester chez nous et pourtant Dieu sait que le gouvernement fait tout pour les accueillir dans différents points de France. Mais pourquoi est-ce que partout en France on subirait cette situation?
Et la question c'est pourquoi rejoindre l'Angleterre? Et pourquoi
Moi j'ai vu, pas plus tard qu'hier, une vidéo qui a été tournée il y a 2 mois avec l'aide de certaines associations qui jouent un rôle très trouble, qui font monter les tensions, des associations pro-migrants, No Border. Certains ont saccagé un port et on voit les CRS qui essayent de les contenir, de les retenir pour éviter qu'ils aillent prendre d'assaut les bateaux et qui sont finalement débordés. Et on voit les No Border avec leur pancarte, bisous Nours, welcome pour les réfugiés. Donc en France et en face, donc ces migrants qui eux scandent UK, ce qu'ils veulent c'est aller en Grande-Bretagne, ils ne veulent pas rester chez nous, ils ont sans doute des conditions là-bas plus favorables, oui, trouver des jobs notamment. Chez nous on sait bien qu'on est le dernier point avant la frontière évidemment, donc on subit cette situation que les Grecs subissent.
La Macédoine.
La Macédoine, le sud de l'Italie, on est débordé parce qu'on n'a pas de règles assez claires, donc c'est un échec de plus, c'est un échec qui est dramatique de l'Union européenne.
Alors, qui est-ce qui est responsable si on doit trouver un responsable entre les Français et les Anglais?
Je crois que la responsabilité. Les Anglais se défendent, ils ont la chance d'être une île, donc pour eux c'est plus facile.
Quoi que ça veut dire, on regarde la Grèce par exemple. C'est vrai qu'on les voit, et notamment, et puis aussi Lampedusa, c'est par la voie de maritime qui rentre aussi sur ces territoires, mais c'est vrai que ça se passe pas.
C'est une frontière extérieure de l'Europe.
Voilà.
Dans notre cas, la France devrait être plus ferme pour ses frontières intérieures. Et on voit bien qu'on n'a plus de frontières intérieures. Avec Schengen, on a démantelé totalement toute protection. Donc, il y a une libre circulation qui s'opère en Europe. Le Front National est souvent, on caricature en disant que nous voulons mettre des barbelés, etc. autour de la France. Quoique peut-être que les habitants de Calais aimeraient bien être mieux protégés. Nous demandons qu'on contrôle ce qui rentre, ce qui sort. Chaque pays d'Europe actuellement, avec la situation, avec les attentats et le terrorisme, essaye de se refaire des lois nationales et des règles nationales. La Belgique, se remet à contrôler sa frontière avec la France, mais de qui se moque-t-on ? D'où sont venus certains des terroristes qui ont fait des carnages à Paris en novembre ?
C'est surtout que les réfugiés ne veulent pas rejoindre la Belgique, voilà, c'est leur dernière envie.
C'est un autre problème, et finalement ça reste quand même toujours le même problème, c'est qu'on ferait bien d'imiter les pays qui, eux, contrôlent. Regardez les États-Unis, on n'y rentre pas comme dans un moulin. Et bien actuellement, ce sont les Français qui sont soumis à n'importe quelle agression ou à n'importe quel poids de migrants donc qui arrivent, et je ne pense que ça n'est même pas dans l'intérêt cette libre circulation des migrants eux-mêmes, hormis les cas de catastrophes politiques comme il y a en Syrie où là il faut trouver une solution politique et on en est loin. Quand ce sont des réfugiés économiques, comme on dit, des migrants qui viennent chercher du travail ou des allocations pour la France, il y a des solutions qui sont à trouver dans ces pays, mais actuellement, tout ce flot qui n'est pas prêt de tarir, au contraire, c'est sur les Français qu'il pèse. Ces gens viennent chercher du travail, mais chez nous, il n'y a plus de travail. Ils viennent chercher un logement, mais on a déjà des listes d'attente pour les logements. Donc il y a une injustice, et on y viendra sans doute avec le sujet du jour.
Est-ce qu'il pourrait y avoir, ou est-ce qu'on pourrait imaginer un accord partiel entre la France et l'Angleterre pour que l'Angleterre accueille quelques migrants ?
Et
sur critère de sélection.
Pour compléter ce que tu dis, est-ce que l'Angleterre joue le jeu en étant actuellement dans l'Union européenne ? Parce qu'on parle actuellement.
Eh bien, c'est bien le problème de cette Union européenne, c'est que c'est une Europe à la carte, finalement. On sait bien que les Allemands l'ont fait, notamment l'euro, qui est un marque pour tous. Certains pays ont su modeler les règles européennes à leur avantage. Les Allemands l'ont fait, notamment pour les normes également. Et les Anglais ont su se faire, parce que c'était les plus eurosceptiques, ils ont réussi quand même déjà à se faire accorder un certain nombre de dérogations aux règles communes. Mais là, ça ne suffit plus. L'Europe craque de partout, il faut le voir.
On va continuer de discuter des sujets qui font l'actualité en ce jeudi matin. Françoise Grelet est notre invitée, conseillère régionale à Calais. On va écouter ensemble Adèle qui arrive avec Hello. Ce sera juste après le point sur l'inforoute.
Pour ou contre ? Tous les jours, 11h midi sur leur FM.
Nous sommes le jeudi 3 mars, il est 11h21. Bienvenue si vous nous rejoignez au cœur du pour ou contre de ce jeudi matin avec Françoise Grelet qui est notre invitée, conseillère régionale à Calais. On va rappeler cette question du jour.
Pensez-vous que les Français aient peur des étrangers ? C'est ce que dit un dernier rapport.
Exactement, vous allez pouvoir réagir au standard 03 82 21 04 04 et puis également sur la page Facebook officielle Lore FM. Le Conseil de l'Europe s'inquiète de la banalisation du racisme.
D'après des experts du Conseil de l'Europe, il y a une forte dégradation de la tolérance envers la diversité en France. Les actes qui dominent sont les discours de haine envers les musulmans, les juifs, les roms et les homosexuels. Ils ont fortement augmenté ces trois dernières années.
Alors en ce qui concerne les migrants, les Français ne sont pas préparés à cette affaire. Influence de population n'ayant pas les mêmes coutumes et les mêmes croyances qu'eux. La France a peur des étrangers. Fin de citation. Est-ce que c'est pas une conjoncture qui pousse aussi cette réaction en France ?
Évidemment, quand on est soi-même dans des difficultés, on n'a pas trop envie de les partager à l'infini, de partager les moyens qu'on est en train de perdre. Moi, je m'insurge contre cette expression de dire de l'Europe qui nous fait la leçon, là. Conseil de l'Europe en disant que les Français seraient racistes ou auraient peur des étrangers et se comporteraient mal. Je ne le crois pas du tout. Je crois que les Français sont un peuple ouvert, on l'a montré. Moi j'étais hier dans une visite de quartier, j'ai rencontré deux agents publics des personnes qui travaillent pour le service public, qui sont venus vers moi très spontanément et avec qui on a discuté, qui sont l'un d'origine maghrébine et l'autre d'origine italienne, figurez-vous, et qui m'ont dit tous les deux, nos pères sont arrivés avec des contrats de travail, ils sont arrivés pour travailler. Chez nous, on a été incités à respecter la France, à respecter les lois, comme n'importe qui, hein, je veux dire. Et ce sont des gens qui sont parfaitement intégrés, qui ne se disent pas immigrés de la deuxième génération, mais qui se disent français et qui sont français. Moi, je ne fais aucune différence entre eux. En revanche, aujourd'hui, on sait bien que dans l'éducation, dans l'enseignement, beaucoup est fait pour culpabiliser la France, pour montrer ce que la France aurait fait de mal pendant des générations et inciter chacun à cultiver son particularisme. Dans les écoles primaires françaises à Metz, il y a des cours de langue d'origine pour les enfants d'origine turque ou maghrébine.
Facultatif.
Est-ce qu'on va les... bien sûr, facultatif, organisé dans les locaux de l'éducation nationale tout de même. Est-ce que la France incite à l'intégration avec ce genre de méthode? Non, on incite chacun à rester donc dans sa communauté et c'est très grave. Donc cela crée des tensions. Évidemment, il y a des tensions aujourd'hui en France, mais ça n'est pas les Français, ça ne viendrait pas d'un sentiment malsain des Français.
Mais des personnes qui voudraient apprendre ces langues, finalement, qu'est-ce qui les interdit si elles sont volontaires?
Pourquoi ça se ferait dans le cadre de l'éducation nationale?
Pourquoi on apprend l'italien ou l'allemand dans nos locaux?
Qu'on l'apprenne dans le cadre de sa famille, si on le souhaite.
Non, mais je veux dire, en LV2 aussi.
En langue vivante,
je sais que, par exemple, dans le lycée où j'étais, c'était une option au bac. On pouvait prendre arabe
au bac. Si on pense que c'est une langue d'avenir commerciale, etc., qu'on va trouver des débouchés, pourquoi pas? Là, enfin, je parle d'enseigner en primaire à des enfants, à la sortie de l'école, avec un enseignant qui est délégué par les ambassades des différents pays. On est dans le communautarisme. La France organise des petites sociétés qui vivent les unes à côté des autres. Moi, j'ai pensé avec cette question justement à un contre-exemple, un exemple d'intégration réussie. Cet après-midi, à l'Académie française, va être normalement reçu. On ne peut pas le savoir, mais bon, c'est déjà l'élection est quasiment acquise. Andrei Makine, qui est un Russe. Parfaitement francophone, un écrivain magnifique qui a écrit un livre qui m'avait beaucoup touché, qui s'appelle « Cette France qu'on oublie d'aimer », où il résumait en différents petits chapitres les raisons qu'on a de défendre la France, d'aimer la France. Eh bien, ça va à l'inverse de cette intégration réussie, donc va à l'inverse que tout ce qu'on véhicule. Actuellement, il y a un ras-le-bol, évidemment, entretenu par des politiques ces immigrés mal intégrés servent de troupes électorales. Hein, soyons clairs, hein, pour le Parti Socialiste, alors qu'on ne valorise pas et pas assez ceux qui souhaitent s'intégrer. Et puis, il y a un trop-plein, évidemment. Quand on disait la France, c'était il y a une vingtaine d'années, vous ne l'avez peut-être pas entendu à l'époque Mitterrand, on disait que la France marche au mélange et qu'il fallait plus d'immigration, plus de mouvements de population pour que la France se porte mieux, mais le mélange dans une mobilette, c'est quelques pourcents.
On préparait l'arrivée de l'Europe, en fait. Quand on disait ça à cette époque-là,
je pense déjà que l'intégration entre peuples européens, les Italiens, les Polonais, etc., n'ont peut-être pas eu forcément une intégration très facile tout au début. Ils ont eu des moqueries, ils ont eu des réflexions parce que les gens sont bêtes et chacun défend, oui, c'est un petit peu son précaré. Et puis ça s'est très bien passé parce qu'on était voisins, on était cousins finalement hein, avec les peuples européens. C'est pas une question d'intégration entre Européens. Quand on parle de discours de haine, quand le Conseil de l'Europe envers les musulmans, les juifs, les roms, les homosexuels, quand même la première cible des agressions, ce sont les églises chrétiennes qui sont profanées. Ça, on en parle finalement peu, on n'en parle pas notamment là. Les cimetières, les croix dans les cimetières, etc. Qui s'insurge et qui condamne cela?
Le dernier cimetière qui a été profané, c'était des gosses de 15 ans d'un village qui ont été faits. J'ai plus le nom du village en tête, c'est la dernière grosse affaire.
Parfois, c'est plus de la bêtise, mais en chiffres, la première cible de haine, ce sont les églises catholiques.
Alors, j'ai pas ces chiffres, moi. C'est pour ça que je peux pas vous répondre.
Ben, je vous les transmettrai, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus banal et courant, malheureusement. Donc, qu'on monte en épingle certains cas où, dans ce cas-là, le Premier ministre se sent obligé de condamner immédiatement. immédiatement, etc. Mais tout est condamnable, toutes les attaques, le racisme anti-français est condamnable aussi, toutes les manifestations de haine sont condamnables. En revanche, il faut voir ce qui pèse au quotidien aux gens, et si on ne le laisse pas le dire, ben on met le couvercle sur la cocotte minute. Il ne faut pas s'étonner que ça explose un jour.
Mais il ne faut pas trouver de bouc émissaire non plus. Si les gens n'ont pas de travail aujourd'hui, ce n'est pas la faute de l'immigration.
Ah mais déjà si on entretient des gens à qui on n'est pas capable de fournir un travail, c'est actuellement le cas, on entretient des gens, on fait venir ou on laisse venir des gens à qui on n'est pas capable de fournir de moyens de subvenir à leurs besoins.
Il y a des règles sur l'immigration économique, c'est pas la principale, c'est la principale immigration actuellement, c'est l'immigration politique. Non. Et pas la migration
économique. Dans les chiffres, ceux qui viennent en réclamant l'asile politique, une très faible minorité l'obtiendra.
Mais sur
la grande majorité ne l'auront pas, mais ils resteront là. Ils resteront en France. Même ceux qui ne l'ont pas obtenu, on sait très bien, une fois qu'ils auront eu un enfant, ils seront inexpulsables, ils resteront en France. On parle aussi des Roms là-dedans. Eh bien, à Metz, il y a un bidonville qui est organisé par la municipalité dans un coin où les gens vivent selon leurs règles de vie, c'est-à-dire qu'ils dans des conditions d'insalubrité qui sont pas les nôtres. Et comment est-ce qu'ils peuvent laisser s'organiser comme ça des communautés vivant chacune selon ses règles dans un pays où normalement il y a les lois de la République devraient s'appliquer de la même façon pour tous. Je trouve ça choquant. Il ne faut pas s'étonner que ça pèse sur nos concitoyens. Quand on voit le nombre de personnes qui attendent un logement décent, le nombre de chômeurs qu'on a en France, comment est-ce qu'on peut, si on est responsable, continuer d'accueillir et de laisser entrer des gens? Je ne dis pas qu'il faut être insensible au problème de ceux qui viennent chercher un avenir meilleur en France, mais on ne peut plus.
Oui, mais ils ne sont pas grassement aidés par l'État. La preuve, c'est que si ces bidonvilles existent, c'est pas pour rien. Sinon, ils seraient tous logés, comme vous nous expliquez.
Cette population dont je parle ne veut pas des règles d'intégration à la française. Ils ne veulent pas aller dans des logements sociaux, etc.
Il n'y en a pas. En même temps, je ne sais pas, est-ce qu'on leur a proposé ?
Oui, bien sûr. La préfecture est obligée de proposer un plan d'insertion dont ils n'ont pas voulu. Ça, c'est un cas bien particulier.
Pour les personnes qui sont volontaires à ce plan d'insertion ?
Bien sûr, on ne peut pas y forcer. Maintenant, entre les demandeurs d'asile et l'immigration qui continue d'arriver, c'est pas parce qu'il y a des demandeurs d'asile que tous les clandestins qui arrivent en France sont dans ce cadre-là.
En général, et c'est la politique en tout cas, même si c'est vrai que c'est difficile de renvoyer ces clandestins, mais aujourd'hui les clandestins ne sont pas les bienvenus sur le territoire français, et même européen d'ailleurs.
Ah ben, ils enfreignent la loi, oui, tout simplement. Voilà. Mais cela dit, ils sont tolérés.
Et comment on pourrait gérer alors tous ces... Je parle bien des clandestins et pas des immigrés politiques, etc. Je parle des clandestins. Oui, comment on les gère?
D'ailleurs, Andrei Makine, dont je parlais, ce grand écrivain francophone, était un réfugié politique au départ. Il a obtenu, c'est la noblesse de la France, hein, d'accueillir des gens qui sont en danger dans leur pays. Actuellement, il faut savoir quand même que les États-Unis et Hillary Clinton, qui se présente à l'élection présidentielle là-bas, a une lourde responsabilité là-dedans, sont allés semer le feu dans différents pays qui maintenant viennent, soi-disant, sous couvert d'instaurer la démocratie en Libye, en Syrie, comme en Afghanistan. On voit bien où on en est maintenant. Hein. Ils ont profondément déstabilisé certains pays qui maintenant affluent vers l'Europe. Donc il y avait des solutions politiques, il y avait des façons diplomatiques, donc de ne pas suivre comme des toutous cette politique-là, hein, pour la France, de façon à ne pas tremper dans des révolutions qui ont été opérées dans ces pays-là. Nous sommes gravement responsables d'avoir suivi des politiques qui ont déstabilisé, par exemple, la Syrie. Il y avait des choses à faire, hein, sur le plan politique. Je ne dis pas que tout était parfait, mais actuellement,
pourtant, le régime est toujours en place.
Donc on a tout faux. En Libye, ça a été la même chose. Donc actuellement, ceux qui affluent vers nos pays viennent de pays où nous sommes allés prêter main forte aux États-Unis, qui ont semé la pagaille pour des intérêts troubles et qui ne sont pas du tout ceux de la démocratie.
On va pouvoir continuer de discuter des sujets qui font l'actualité. Il est 11h32, on va aller écouter les Coldplay avec Him for the Weekend. Ce jeudi matin, c'est Françoise Grelet qui est notre invitée, conseillère régionale à Cal, jusqu'à midi.
Pour ou contre ? tous les jours, 11h midi sur leur FM.
Il est midi moins 20, bon appétit si vous êtes déjà à table à l'écoute du pour ou contre de ce jeudi matin avec Françoise Grelet qui est notre invitée, conseillère régionale à CAL Front National. On va parler de l'INSEE, ce taux de chômage qui baisse un peu en France.
Le taux de chômage a terminé l'année 2015 sur une légère baisse, moins 0,1 point sur un an, redescendant au quatrième trimestre à 10% de la population active en métropole, ce qui confirme les chiffres de Pôle emploi il y a quelques jours.
Mais toujours 10%.
Et puis, est-ce qu'il s'agit de création d'emplois ou de radiation ?
Alors, les radiations, il y a eu un problème sur la dernière vague, c'est vrai, mais ouais. ça a été écrit sur le communiqué.
Le gouvernement lui-même en était étonné. Voilà. Hein, donc, est-ce qu'il faut vraiment en attendre une amélioration ?
Les vecteurs sont pour une baisse qui va se produire et qui est peut-être en train de se produire. On nous avait quand même annoncé.
Cette année.
Voilà. Ça a été annoncé, oui, voilà. Est-ce qu'on a vraiment pris la mesure du problème ? Est-ce qu'on a vraiment pris les mesures permettant d'améliorer la situation de l'emploi ? Je ne le crois pas. On voit actuellement la loi très contestée, hein, El Khomri.
Vous en pensez quoi d'ailleurs de cette loi ?
Eh bien, ça va provoquer, du moins. Si elle arrive en l'état, hein, on n'en est pas encore là, puisqu'il y a quand même énormément de contestations, une explosion du travail précaire. Alors, on parle d'un vrai problème, c'est ça qui est troublant, hein, on ne sait pas trop. On parle d'un vrai problème qui est le fait que le droit du travail, que les normes, les charges, tout ça doit être réformé. Mais en proposant une situation qui, à l'issue, en proposant des solutions donc qui vont empirer la situation, comme pour la réforme territoriale. Il fallait réformer nos collectivités, puis au final, qu'est-ce qu'on a fait ? On a ajouté une super région au-dessus des régions existantes, on va garder beaucoup de dispositifs, beaucoup de d'administration, beaucoup de complexité, donc on ne résout rien, au contraire, on ajoute. Et bien là, est-ce qu'on va vraiment débloquer l'emploi avec ces mesures législatives ? Je ne le crois pas. Donc il va y avoir une explosion du travail précaire comme en Allemagne. Il y a un recul social qui est dénoncé au-delà des syndicats, avec une précarisation.
L'ensemble de la gauche se révolte là-dessus.
L'ensemble de la gauche, mais pas seulement. Et puis il y a une complexification, il y a des règles qui seront applicables à tous, mais on sait très bien que les grandes entreprises auront les moyens donc de faire des accords, pour passer au-dessus des accords de branche, de faire des accords spécifiques aux entreprises, et les petites entreprises, une fois de plus, les PMI, PME, ne seront pas à égalité, comme pour l'impôt sur les sociétés. Il y a des choses à réformer pourtant, hein, notamment cet impôt qui est totalement injuste, et qui touche plus les petites entreprises qui sont pourtant celles, les PMI, les PME qui créent de l'emploi, qui pourraient créer de l'emploi et qui en sont empêchées. Il y a des normes qui écrasent et asphyxient la vie des entreprises. Il faudrait simplifier évidemment la vie administrative des entreprises.
J'ai un peu l'impression que personne n'a la solution pour réduire le chômage en fait.
Ben c'est surtout qu'on on apporte de mauvaises réponses à des vrais problèmes. Et puis surtout, on ne fait rien pour débloquer le problème des entreprises françaises qui sont soumises à une concurrence injuste et déloyale.
Alors c'est quoi la recette miracle pour réduire ce chômage ?
Eh bien, il faudrait qu'on soit, par exemple, je prends le cas des agriculteurs, mais également de toutes les petites entreprises qui produisent en France, qui sont soumises à une concurrence qui est démesurée, une concurrence libre et non faussée, avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes sociales, environnementales, qui, pour certains, exploitent leurs travailleurs. Et nous, on devrait produire au même coût que ces pays-là, c'est impossible. Donc nous serons toujours défavorisés dans un match où on a les mains liées dans le dos et qu'on combat avec des gens qui sont surdopés parce qu'ils ne respectent pas les mêmes règles.
Est-ce que du coup on peut vraiment faire quelque chose au niveau national ?
Déjà, je reprends la question des agriculteurs. Nous avons des agriculteurs, une agriculture de qualité, et qui est incitée à faire une production intensive au lieu de produire, de faire une production de proximité. Hier, au salon de l'agriculture, Philippe Richer, donc le président de notre nouvelle région, vantait l'agriculture de notre région Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine, qui en effet est un atout, hein, important pour notre région. mais en disant qu'il fallait aller vers le modèle allemand. Il a parlé du modèle allemand et c'est quelque chose qui me choque énormément. L'Allemagne arrive à produire par exemple la viande est 10 ou 20% moins chère, tout le monde le sait ici. Beaucoup vont faire leurs courses de l'autre côté de la frontière. Et pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette distorsion de concurrence? C'est qu'ils utilisent énormément de travailleurs détachés. Donc c'est une concurrence déloyale. Les travailleurs détachés sont payés avec les charges sociales de leur pays d'origine.
Mais on ne peut pas les lutter contre les dérives d'un pays qui n'est pas le nôtre, par exemple.
Oui, mais pourquoi les Français sont dans ce cas-là? Pourquoi est-ce qu'on laisse importer des produits, donc soit d'Europe du Sud, qui sont produits avec des normes sociales bien inférieures, ou des produits qui viennent d'Allemagne, où on utilise à outrance le système des travailleurs détachés. Nous disons qu'il faut qu'on se batte à armes égales et qu'on donne à nos éleveurs, à nos agriculteurs, les moyens de ne pas dépendre du cours des marchés, du cours des... On sait bien, hein, sur le prix que nous, consommateurs, nous payons au final, s'il y a une augmentation, elle ira... pour les grandes centrales d'achat qui négocient et qui les prennent à la gorge, hein, et elle n'ira pas aux producteurs. On en rêverait de donner quasiment le coût final d'un kilo de viande pour nous à celui qui l'a produit, et en espérant qu'il le produise avec les normes les plus satisfaisantes pour notre santé commune.
Après, c'est vrai que les prix sont fixés par l'Europe, les prix de vente directement de l'agriculteur pour les industries, par exemple. Mais c'est pas à ce stade-là, parce que c'est une norme européenne. L'Allemagne doit vendre sa production, les agriculteurs allemands doivent se caler sur les prix qu'ont fixé l'Europe. Donc est-ce que c'est pas en interne déjà?
Les prix sont négociés. Ah bah bien sûr, il y a des choses à faire chez nous. Les prix sont négociés entre les centrales d'achat et les producteurs.
Mais au point de vue européen, il y a des normes à respecter. On peut pas vendre plus cher ou moins cher le produit.
Ah ben il n'y a pas un prix unique de ce qui est produit par
les agriculteurs. Ah, une variable qui est pas très grande.
Ce qu'a fait l'Europe par exemple, c'est d'organiser une surproduction, par exemple pour le lait. Il y avait avant des quotas laitiers et la suppression a entraîné des fermes monstrueuses qui produisent dans des conditions donc déjà de respect de l'animal dont il vaut mieux pas parler, et puis même d'une question de qualité. Nous sommes tous attachés à la qualité de ce que nous mangeons. Je veux dire, aujourd'hui, je suis mère de famille, j'aimerais donner à mes enfants, à un prix décent, les meilleurs produits. Tout le monde ne peut pas se payer du bio et tout le monde n'a pas le temps non plus d'aller chercher chez les producteurs. Donc il faut
c'est ça, donner... et tout le monde n'a pas les moyens d'acheter français. C'est ça en fait. Hein.
C'est là le problème.
Mais c'est pas nos agriculteurs le problème. Nos problèmes, c'est nos industriels.
Non. Ah ben aussi, bien sûr, l'industrie agroalimentaire et les règles du jeu qui sont faussées. Marine Le Pen disait à propos de la mondialisation, c'est faire produire par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Évidemment, le chômeur n'a pas les moyens d'acheter un t-shirt made in France qui va coûter 10 fois plus cher qu'un t-shirt made in China, faisant au passage le malheur des enfants ou des travailleurs chinois qui doivent produire. Enfin, je parle de la Chine, mais il faut protéger ce que nous produisons, notre production française. Et évidemment, ce qui ne veut pas dire mettre des barbelés, encore une fois, mais nous donner aussi les armes pour nous battre à armes égales et pouvoir après exporter, bien sûr.
De toute manière, on ne peut pas se désolidariser de la politique agricole européenne aujourd'hui, de la PAC, à partir du moment où on fournit 50 milliards d'euros à nos agriculteurs. Si on casse ce principe, où on le trouve cet argent? Déjà qu'ils ont la corde au cou.
Les agriculteurs, ils attendent de vivre de leur travail, c'est ça leur dignité, et non pas de vivre d'aide qui les rendent finalement de chasseurs de primes.
Mais est-ce qu'on pourrait atteindre ces 50 milliards en changeant la législation ou en devenant indépendant au niveau de l'agriculture? Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait compenser ces 50 milliards?
Actuellement, la France donne 23 milliards à l'Union européenne, c'est sa participation au budget européen, et elle n'en retire que 13. Elle donne 22 et elle retire 13 milliards. Ce qui veut dire... Oui, c'est la politique européenne appliquée en France, donc les programmes européens, nous abondent, disons, nos propres budgets de 13 milliards.
Mais sur l'ensemble du budget de la France, pas sur l'agriculture.
Oui. Non, là je parle généralement. Ce qui veut dire que l'Europe nous coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle nous rapporte.
Oui, enfin 50 milliards par exemple, si vous prenez sur l'addition de ce que vous venez de nous dire, aujourd'hui on n'arrive même pas au compte pour les agriculteurs.
Encore une fois, nous payons nos produits alimentaires à un prix qui est pas négligeable, hein. Surtout si on faisait la traduction en francs, on aurait le vertige, hein, sur le prix d'un kilo de tomates ou de produits qu'on peut fabriquer et qu'on peut produire chez nous. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'importer des produits, or évidemment en saison, des produits qui viennent de l'étranger? Ça, c'est un coût, c'est évident.
Ou parce qu'il y a un manque aussi. Si on n'aurait pas besoin, si on avait une surproduction en France, on n'aurait pas besoin de l'importer.
Et c'est que c'est moins cher. Les centrales d'achat qui tordent le bras à nos producteurs, nos agriculteurs, leur demandent de baisser sans arrêt leur coût, leur prix de vente. Actuellement, certains vendent à perte. Les agriculteurs qui se suicident aujourd'hui et dont on ne parle pas assez sont désespérés
parce qu'ils vendent à perte. Mais pas à perte. C'est interdit en France de vendre à perte.
Cette année, non, eux vendent aux centrales d'achat.
Oui,
mais ils vendent oui, qu'ils. C'est une situation, oui, temporaire. On peut pas faire ça pendant des années, c'est clair. Mais il y a un moment où on vit d'une façon, enfin, avec des revenus tellement dérisoires qu'on ne sait plus comment s'en sortir. Quand on est endetté, qu'on a acheté du matériel, etc. Et ils sont poussés au désespoir. Nous payons bien quand même quand on pousse son caddie et qu'on arrive à la caisse, on sait combien ça nous coûte. Moi, j'aimerais, nous aimerions que une part beaucoup plus grande de ce que notre facture finale revienne à celui qui a fait le travail et qui, au passage, a entretenu le paysage français, a empêché la désertification des campagnes. C'est tout un ensemble. Actuellement, quand on ferme une trésorerie, quand on ferme, hein, comme ça a été le cas dans nos communes de Moselle, quand on ferme le cadastre à Ayange bientôt, la trésorerie de Courcelles-Chaussy, tout ça c'est des emplois, c'est des vies, c'est des écoles qui vont fermer, c'est la désertification de tout ce qui n'est pas les grandes métropoles qui sont absolument encouragées et promues aujourd'hui par les politiques UMPS.